FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc, manquez pas ça, les architectes du son.
Hey, cet été, là, Chiz 94.3 va faire les festivals autour du monde!
Voyons, Kevin, il y a assez de bons shows au Québec, là. Moi, je sors pas de ça. Durant toute la période estivale, l'équipe de Chiz se promène partout sur les routes du Québec à la recherche des meilleurs spectacles. Tadoussac, Québec, Carleton-sur-Mer, Baie-Saint-Paul, en veux-tu du bon spectacle? En veux.
Pour ne rien manquer, visitez le chiz.ca et synthétisez le 94.3 tout le temps.
Passe devant, c'est bien fait! Le tir est le but!
Les Remparts de Québec sont à la Coupe Memorial et c'est sur Chiz 94.3 que ça se passe. Le deuxième match contre les champions de la WHL, les Thunderbirds de Seattle, aura lieu ce lundi 29 mai à 21h. Rejoignez Rick Loutier sur nos ondes dès 20h45 pour l'avant-match. Remparts Thunderbirds, lundi 21h sur les ondes de Chiz 94.3.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Il est 14h, nous sommes lundi, le 29 mai, et c'est Écoute Locale, les entrevues qui commencent à l'instant, l'émission avec laquelle je passe 60 minutes autour d'une table et d'un micro avec un artiste de la scène locale de la ville de Québec. Et aujourd'hui, mon invité, eh bien, c'est Sandra Contour, live en studio! Salut Sandra!
Salut Lily!
Comment ça va?
Ça va bien.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Ben là, écoute.
T'as pas vraiment eu le choix.
J'ai pas le choix. C'était soit t'étais dans la marde ou soit je venais.
Voilà, mais... ben c'est ça. Non, merci beaucoup d'avoir accepté pour l'anecdote. Donc j'ai recruté Sandra hier pour qu'elle soit aujourd'hui avec nous live en studio. C'est ta première fois à Chiz.
Mes premières fois en studio, point.
Mais wow.
J'avais déjà fait une entrevue en téléphone, mais comme dans
jamais
un studio.
Jamais live en studio.
Ouais,
voilà, mais bienvenue chez nous dans le sous-sol.
Merci.
De Chiz 94.3. À Écoute Locale, les entrevues, on fait une revue un peu musicale des carrières des artistes qui sont dans le paysage musical de la ville de Québec. On jase musique, on va écouter durant la prochaine heure des suggestions musicales qui viennent de toi parce que à Écoute Locale, les entrevues, eh bien, mes artistes ont carte blanche pour choisir la musique. Alors, si vous êtes avec nous, embarquez en voiture. On va découvrir Sandra Contour tous ensemble. Sandra Boulanger, de ton vrai de vrai nom.
De mon vrai de vrai nom, c'est ça.
Parce que Contour, c'est ton nom d'artiste et aussi une petite blagounette autour du drap Contour.
Ben oui.
Faut que tu l'expliques des fois.
Ben, des fois, j'aime ne pas l'expliquer, en fait, parce que le monde catch, des fois, un an plus tard.
Oui, puis, l'élimination.
Ouais, c'est ça.
Toujours appréciable de, tu sais, comme comprendre une blague, mais vraiment plus tard. C'est toujours
mais
un beau plaisir.
C'est pas nécessairement juste une blague, tu sais, c'est comme... ben, en fait, oui, c'est une blague, mais aussi un drap Contour, tu sais, c'est quelque chose qui est dur à plier, qui est pas comme...
C'est compliqué un peu.
Ouais. On sait pas quoi faire avec. T'sais, ça se met pas dans une boîte facilement. Fait que, c'est ça.
C'est un peu ça. Sandra, t'es originaire de où?
Je suis originaire d'Alma.
Alma.
Saint-Jean.
Ouais. D'où le petit accent.
Le petit
qu'on
accent
entend.
Qui ressort.
Ben
des
oui.
fois, j'arrive de là en plus. Fait qu'il est un peu
plus.
Il a le volume monté.
J'aime ça. Est-ce que tu viens d'une famille qui écoutait beaucoup de musique?
Je viens d'une famille qui écoutait beaucoup de musique. Mon père surtout, c'était ben même ma mère. Ma mère écoutait beaucoup la radio. Ma mère est tout le temps radio chez eux, puis dans son auto. Mon père, c'était plus, tu sais, il avait comme ses goûts, puis ben je dirais pas niché. C'était quand même très grand public, mais ouais. Ça reste que tu sais, j'écoutais les colocs beaucoup avec mon père, puis lui il trippait aussi. Tu sais, mettons qu'on trippait sur de la musique, ben il l'écoutait avec nous autres. À cœur joie, mettons, Venga Boys, puis affaires de même. Fait qu'ils mettaient ça au bout dans le pick-up, puis ouais.
Fait qu'ils se collaient un peu à vos goûts musicaux puis à ce que vous écoutiez dans la famille.
Exact. Fait que ça nous a permis d'être fiers de ce qu'on écoutait puis d'être appuyés là-dedans, puis même si des fois... mais c'est ça. Non, tu sais, j'ai pas de regrets par rapport à la musique que j'ai écoutée, puis...
Ah, mais tu sais, on passe à travers différentes époques, hein, on pourra en reparler.
Exactement.
Évidemment.
Oh, excuse, mais mon père, pour dire, pour faire un petit coup vite aussi, mon père était aussi musicien, ben de salon, je dirais, ah là, oui? De poêle à bois, de camping.
Tu jouais de la guitare?
Ouais, je jouais de la guitare, chantais. Les boulangers, ça chantait beaucoup, okay. Dans la famille. Là, fait que,
du bord ouais. À ton père, ça, ouais, ça joue de la musique.
Ça joue de la musique.
Yes. Ouais. Ta mère un petit peu moins, mais ça en écoute.
C'est ça, exactement. C'est
ça. On aime. Mm. Tu dis nous, t'as des frères et sœurs?
Oui, j'ai une petite sœur.
Ah!
Petite sœur.
Est-ce qu'elle est dans le domaine artistique et culturel ou elle ferait un autre chemin complètement?
Non, elle a un autre chemin. Mais je pense qu'on a toutes, on est toutes un peu artistes à quelque part. Mm. Là, elle est artiste dans son jardin en ce moment. Elle est en train de s'acheter. Ben, elle vient juste de signer un gros terrain là, au lac Saint-Jean dans le bois. Puis mes parents l'aident beaucoup de ce temps-ci, là, mais ils sont artistes dans le terrain puis dans le...
Ah, oh, c'est ça! La créativité passe où ça peut.
Exactement.
De toute manière, j'aime ça.
Ouais.
Toi, Sandra, bon, tu joues la guitare?
Oui.
Tu joues du violon?
Oui, surtout.
Surtout, lequel est venu en premier, le violon?
Violon, oui. Mais je dirais, ce qui est venu en premier, c'est l'orgue.
Ah, ouais.
Avec les petits beats des années 80, là. J'avais comme 2 ans, puis je tassais ma mère. Hey, tente-toi!
Il y avait un orgue à la maison?
Oui, il y avait un orgue à la maison. Ouais.
Non, on s'entend, là, un orgue de salon.
Ah oui, de salon.
Hein? L'orgue avec la petite pédale puis les petits beats. T'avais ça, je suis chanceuse. J'avais je suis comme jalouse.
Ah ouais.
Fait que tu te pognais un peu là-dessus. Ouais. Ça. Est-ce que ton père ou ta mère jouaient?
Ma mère a joué un peu, mais c'est ça, tu sais, c'est plus mon père, je dirais. Mais ma mère aussi, c'est vrai. Mais les deux, tu sais, c'était comme plus pour s'amuser. Puis ils n'en ont pas fait une profession, mais ça régnait beaucoup, tu sais, avec de la musique quand même.
Fait que ça devient un jeu, là, donc très rapidement,
ouais,
de pouvoir taponner un peu sur l'orgue avec les beats, puis juste faire des petits sons.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais comme, rapidement, j'avais cette envie-là de prendre ma place. Puis, tu sais, comme je disais, maman, tasse-toi, tu sais.
Ouais, ouais, c'est
ça. Je voulais jouer, puis j'aimais ça. Mais ouais, comme tu dis, c'était vraiment c'est plus un jeu. Puis ça l'a longtemps été, tu sais, même quand je jouais du violon, mes parents, ça a jamais été... Ils m'ont jamais forcé à pratiquer, tu sais. J'ai jamais été une pratiqueuse, mais ils m'ont jamais comme poussé comme certains parents l'ont déjà fait avec des amis qui, finalement, ont lâché par la suite. Mais... ça arrive, je veux dire, il y aurait pu... Il y a des parents qui poussent puis qui
ont plus d'enfants.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas une mauvaise chose non plus. Mais de mon bord, ils ont été super ouverts puis ils étaient juste vraiment contents quand je jouais. Fait que ça a tout teinté. Ouais.
Donc, t'as commencé le violon, on se doute, assez tôt?
Oui, à l'âge de 7 ans.
7 ans?
Oui.
C'est-tu quoi? C'est tôt? Mais pour le violon, je trouve ça tard.
Ah oui?
La plupart des gens à qui je parle ont commencé le violon, ils ont comme 4, 5 ans. Tu sais, ouais. Parce que moi, j'ai commencé à 4, 5 ans aussi le violon.
C'est ça, toi aussi, tu joues du violon.
C'est un très grand mot.
Je t'ai jamais entendu.
C'est pour ça.
Je peux pas me prononcer là-dessus.
mais donc, c'est ça. Mais ce qui est intéressant avec ça, puis on a reçu à Écoute Locale il y a quelques semaines déjà Simon Veilleux, qui joue du violon maintenant dans plusieurs projets, dont Bosco Baker. Mm-hmm. On a reçu également nombre d'artistes qui maintenant sont connus pour leurs chansons, mais qui ont commencé au violon. On peut penser notamment à Ariane Roy, qui a suivi des cours de violon quand elle était toute jeune, mais que ça a pris le bord à un certain moment. Sans doute à cause justement de la rigidité et de la rigueur en fait que cet instrument-là souvent va exiger, tu sais, pour s'améliorer rapidement. Mm-hmm. Mais ça reste que c'est un des instruments que les parents vont chercher très, tu sais, comme très rapidement. On t'inscrit à des cours de violon, de ballet, tu sais, des choses un peu plus classiques.
Mm-hmm.
Dans ton cas, est-ce que ça venait de toi ou ça venait de tes parents, les cours de violon?
Ça venait de moi.
Oui?
Oui, c'est venu de moi. C'est comme une prof qui donnait des cours de parascolaire au primaire sur l'heure du midi.
Wow!
Denise Boileau, j'aime bien.
On la salue?
Oui, on la salue. Elle a gagné un prix, le prix du Patriote du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, comme 2 ans.
Incroyable.
Ouais, c'est ça. Elle a tellement donné pour ses étudiants et étudiantes dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup de violonistes maintenant qui en font leur profession, qui découlent de cette enseignante-là.
Fait que,
ouais, elle est incroyable. Puis, tu sais, elle m'a vraiment comme... Elle a planté des graines là, partout, tu sais, juste sa passion, puis, tu sais, elle était une hippie, là,
ouais,
puis
ouais.
Elle tripait, elle était tellement comme dansante, elle nous faisait faire la salutation soleil avant qu'on joue, tu sais, c'était pas du tout la formation classique comme on peut connaître, là, c'était très libre, puis fait que ça m'a beaucoup inspirée, j'y pense encore beaucoup quand...
C'est une belle première approche.
Ouais.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de tes amis qui ont eu cet intérêt-là, justement, grâce à cette prof-là, de jouer du violon?
J'en connais pas tant que ça. Ben, c'est pas vrai. J'ai recroisé une amie avec qui on avait fait nos débuts, Laurie Harvey, qui est maintenant une enseignante à Québec aussi de violon.
Wow!
Puis on s'est vu au show de Kate Kuna l'autre fois. Il y a comme 10 ans quasiment. Puis, ben, plus que ça. Puis, c'est ça, mais j'en connais pas beaucoup de ma cohorte. Mais ça reste que c'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui viennent de...
Fait que cette graine-là a été semée, mais c'est non seulement, oui, les qualités techniques, tu sais, pour jouer du violon, mais mm-hmm. surtout la passion, l'intérêt mm-hmm. et l'amour, en fait, de la musique. Je pense oui. qu'il a été implanté à ce moment-là.
Ben oui, exactement. Puis c'est ça. Juste que ça soit un jeu aussi, ouais. De perpétuer le jeu à travers ça, c'est tellement important. Puis que,
tout à fait.
Que ça reste ludique.
Donc, tu commences à 7 ans, t'es à l'école primaire, oui. et là, t'as comme la piqûre, et là... Ça démarre.
Ouais.
Quel genre de répertoire? Est-ce que tu apprenais, est-ce que tu te souviens d'une des premières chansons que tu peux avoir jouées?
Oui, mais on apprenait des reels. On apprenait du trad. Ouais.
That's
it. Fait que, puis tu sais, c'était comme. C'était pas.
Que tu joues très lentement.
Que tu joues très lentement, puis avec les. C'était pas les notes. On apprenait pas avec les notes okay. De musique.
Il n'y a pas de théorie musicale avec.
Non, c'est okay. ça. Au début, là, c'était super libre. On apprenait avec... on avait quand même une partition devant nous, des fois, mais c'est avec des petits chiffres en haut pour dire qu'elle doit mettre sur telle corde. Fait que c'était une autre technique d'apprentissage. Puis plus visuelle aussi, plus instinctive, je pense, en tout cas.
Ouais.
Je ne suis pas prof de violon, mais moi, j'ai
c'est
vraiment apprécié.
C'est une approche qui t'a convenu à l'époque aussi. Là,
exactement.
C'est ça.
Fait que c'est ça. On a commencé à... C'était quoi ta question encore?
Ah, oh, c'était de savoir les premières chansons que tu as jouées
c'est
au violon. Ouais,
voilà.
Donc des reels.
Des reels.
Quand même, c'est assez surprenant parce qu'on ne penserait pas à ça comme une chanson facile à apprendre et simple à mémoriser parce que, en tout cas, traditionnellement, il y a de la note au pouce carré.
Il y a de la note, mais il y a moyen quand même de remettre ça.
Ouais.
Tu sais, certains. Je me rappelle le reel du diable, ça a été un de mes premiers reels que
ouais.
j'ai appris.
Un premier défi, là.
Puis là, maintenant,
tu...
je rajoute des notes, tu sais, je le fais plus vite.
Est-ce que plus tard, ça a piqué un intérêt pour toi, pour la musique trad en général?
Oui,
ouais.
beaucoup. Avec mon père aussi. Mon père qui m'accompagnait à la guitare
ouais.
aussi, puis qui trippait. T'sais. On arrivait d'un party de famille, puis là, on avait comme 2-3 reels qu'on avait appris pendant l'année, puis là, on les jouait ensemble. Pis, fait que ça a comme créé ça aussi dans la famille avec
ouais.
mon père. Le trad, ça a toujours été comme notre petit
le moment de complicité, notre... là. Ouais,
ouais, c'est ça.
Exact.
Vraiment.
Mais c'est le fun que la famille était derrière. Je pense ouais. que c'est là qu'on a la clé de ça.
Mm-hmm,
probablement que s'il n'y avait pas eu une manière de matérialiser ça concrètement à la maison, dans la famille, puis de continuer à jouer puis avoir du fun avec ça,
ouais.
t'avais été juste toute seule à jouer tes petites affaires à l'école,
ouais.
ça aurait peut-être pas eu le même écho après
Exactement.
Ça dans le reste de ta vie.
J'ai été très chanceuse d'avoir cet environnement-là. Mon père, je le remercie beaucoup de ça tout le temps, là, mais il me suit encore maintenant. Il est encore très touché. De... J'y ai fait écouter dernièrement mes tunes, puis on pleurait ensemble.
Fait
que
c'est cute.
C'est vraiment... c'est quelque chose qui nous lie vraiment fort.
Ouais.
Mais c'est ça, mon père, on jouait... C'est ça.
Ouais, ouais, donc c'est pas grave, c'est pas la question qui compte, c'est la réponse. Mais donc, c'est le fun parce que ça t'a permis de jouer... pour le fun aussi.
Oui,
tu sais, sûrement, il y avait des petits concerts à l'école aussi, des moments où est-ce qu'il y avait le spectacle où vous présentiez ce que vous aviez appris et tout ça.
Oui.
Mais ça reste que quand on le fait pour le fun, pour le plaisir,
oui, c'est ça.
C'est là qu'on a vraiment la clé du succès pour continuer par la suite.
C'est ça, je voulais revenir au fait que tu disais si tu avais été toute seule.
Ouais.
Tu sais, mon père, il me dit beaucoup... Il dit, de ce temps-ci, j'ai pas le goût de pratiquer. Tu sais, j'ai plus ma famille pour jouer. J'ai plus personne.
Ouais.
Je fais plus de petits shows. Fait que, tu sais, pour moi, c'est la même affaire. Quand j'ai comme pas de projet ou, tu sais, de gens, la musique, pour moi, c'est très social.
Oui, c'est jouer avec les gens.
Avec les gens, c'est encore un jeu, tu sais. Puis quand il y a comme personne autour de moi, comme là, dernièrement, je suis déménagée à Québec, j'avais pas de visite, tu sais.
Oui, comme tu le dis dans une
de mes chansons. Ben, c'était difficile pour moi de pratiquer puis de tu sais de
ouais
de
pas, ton cercle social n'était plus là,
c'est ça.
T'es arrivée à Québec il y a 2 ou 3 ans?
Non, même pas, ça fait c'est en septembre dernier.
OK, c'est récent.
Ouais.
Comme ça.
Ouais, mais j'ai habité à Québec de 2010 à 2015.
OK,
je suis à l'université Laval, mais
fait que t'as déménagé un peu à Baie-Saint-Paul.
Ouais.
t'es revenu à Québec. Donc, un petit yo-yo. Wow!
C'est ça, exactement.
Ou un boomerang, plutôt. mais donc, ouais, donc, de se rebâtir un cercle social, de retrouver, tu sais, puis quand on fait de la musique, les gens ont peut-être l'impression que c'est plus facile. Mm. Parce que, justement, on a ce réflexe-là ou cette idée-là de jouer de la musique en groupe ensemble, mais il reste qu'il faut aller vers les gens, puis...
Faut tendre des perches.
Exact, puis... démarcher ça un petit peu.
Ouais.
Être le propre moteur de sa musique. J'ai le goût d'aller écouter une première chanson, si tu veux bien, Sandra, parce que, bon, comme je l'ai dit au début de l'émission, mes invités ont le mandat de choisir la playlist, donc les chansons qu'ils vont jouer pendant l'émission. Et tu nous as concocté une playlist assez éclectique, et j'adore ça. À chaque fois, je découvre des artistes que mes invités amènent en onde, et c'est toujours un délice. Je te laisse choisir par quelle chanson on commencerait ce périple-là.
Ben, je commencerai par on est à Écoute Locale, fait qu'on va y aller avec un gars d'Alma.
Ben oui.
Qui s'appelle Joël Martel, puis que moi c'est ma bébite là, genre ouais. je l'adore. Puis autant que je le trouve tellement drôle, autant que je le trouve très touchant aussi. Il écrit super bien. Il a été journaliste aussi pour
oui, c'est vrai.
Pendant un bout. Puis fait que c'est ça. Pour moi, Joël Martel, c'est un tout. Tu sais,
c'est un artiste auto-géré, auto-suffisant, auto-rigolo. Écoute, il est de tous les artistes que je connais, premièrement, c'est le plus prolifique parce que, mon Dieu, il va te faire un album aux 5 minutes. Il est créatif et en plus, ses chansons, ben, sont bonnes. Alors, ça me fait vraiment plaisir que tu me sortes ça. On va aller entendre quelle chanson, Sandra?
Les Bebites.
Les Bebites de Joël Martel. On commence notre périple musical à Écoute Local. Les entrevues avec Sandra Contour. C'est parti en musique!
Je me promenais dans la forêt, c'était presque parfait. Pis v'là tu pas des bébés. Si c'est pas des moustiques, c'est des petits. Mouche qui te pique, t'en as même dans les cheveux des bébites. Y'en a dans la forêt, y'en a aussi au centre-ville. Tu peux pas t'en sortir des bébites. 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 Des fois c'est des.
Faites attention, ça dégèle de ce temps-ci. Les Bebites de Joël Martel. Vous êtes Écoute Locale, les entrevues avec moi-même, Émilie Rioux. J'ai le bonheur, la chance et le privilège de passer 60 minutes avec Sandra Contour, mon invitée aujourd'hui. Et c'est elle qui nous a proposé Joël Martel avec Les Bebites. On peut en parler déjà, Sandra. C'est un artiste, tu l'as dit tout à l'heure, évidemment, Joël Martel, que t'aimes beaucoup, mais qui t'a inspiré également.
Ben oui, c'est ça. Parce qu'Émilie, tu me dis tantôt, pendant la petite pause, qu'on écoutait, ça me fait penser à une de tes chansons, J'ai pas de visite, qui rime en plus.
Ouais.
En fait, cette chanson-là est arrivée, elle a été inspirée de Les Bebites de Joël Martel, en fait, parce que un soir de novembre, très triste, je filais pas, puis là, je me suis dit, hey, fuck that, je vais aller au foubar, puis pas de sel, rien. Puis, j'avais rien emmené, je voulais juste comme m'imprégner de gens parce que justement je me sentais toute seule, je venais d'arriver à Québec, puis en tout cas, faisait frais dans mon appart. Classique. Fait que là, j'arrive au foubar, puis me prends une petite bière, puis là il y a la toune Les Bebites que j'ai dans la tête. Puis là fait que ça me commence à
ça teinte un ça peu ton regard de la soirée.
C'est ça, puis là je me dis là c'est ça, ça roule dans ma tête Les Bebites, puis là je suis comme j'ai pas de visite. puis là, asti, ça fit. Fait que là, je commence à avoir ça dans la tête, un beat. Puis là, moi, d'habitude, mes tunes sont vraiment pas électro. Ou, ouais, ouais. Sont pas upbeat.
T'as répété un petit peu plus folk, tranquille.
Très folk, ouais. Ouais, c'est ça. Mais là, celle-là clash, mettons, ouais. De tout le reste. Puis je me suis mis à écrire des paroles sur mes endos de facture que j'ai retrouvées d'ailleurs en faisant mes impôts, là. J'avais comme rien à écrire, rien pour écrire cette soirée-là. Mais, fait que, tu sais, j'ai écrit la toune, finalement, au foubord, en arrière de mes factures. Je suis arrivée chez nous, j'ai fait un beat jusqu'à comme 3 heures du matin.
T'étais partie sur j'étais une partie, bulle, là. Là.
Ouais, vraiment.
Fait que, ouais. Fait que, et ça merci, a donné Joël. Cette chanson-là.
Ouais, ben yes. Oui, qui est quand même... maintenant, qui fait partie de mes spectacles, ouais. Là, souvent, je joue avec ça.
Ouais, puis qui donne un peu le ton sur ta musique. On va y arriver à parler de tes chansons, de ton parcours musical. Jusqu'à maintenant, avant d'aller en pause avec notre ami Joël Martel, on jasait un peu de ton apprentissage de la musique, puis de comment ça a toujours été familial, comment ça a toujours été ancré dans le salon chez vous, parce que ça écoutait de la musique, parce que ton père faisait un peu de musique, et parce que, bon, t'as eu un beau hasard avec la fameuse prof de violon l'école primaire qui t'a vraiment donné la piqûre. Par la suite, on arrive souvent à l'école secondaire. Pis c'est là que nos goûts musicaux vont se développer. T'sais, à l'adolescence, souvent, on va pogner un buzz sur un style de musique, un artiste, une époque. Mm-hmm. Puis c'est souvent ça qui va teinter le reste de nos écoutes musicales. C'est pas toujours le cas. Il y a plein de gens qui se mettent à écouter un paquet d'autres trucs. Mais généralement, l'époque adolescente est assez emblématique de notre couleur musicale, j'ai envie de dire. Pour toi, c'était quoi, musicalement, l'adolescence?
Hey, moi, l'adolescence, là, ça a été la période la moins musicale c'est de vrai? Ma vie. Ouais, vraiment. C'est comme si j'étais teintée par... j'étais une personne qui osait pas beaucoup s'affirmer dans ce temps-là. Je vivais beaucoup d'intimidation aussi. Fait que c'est comme si j'osais pas écouter la musique qui m'aurait plu à ce moment-là, nécessairement.
Par pression sociale ou par pas oser trop faire quoi que ce soit.
Ouais, ouais. C'est ça. Mais tu sais, ça reste que les colocs, ça a été quand même, tu sais, avec mon père aussi beaucoup, là, mais ça a été, ça a joué beaucoup dans le pick-up puis dans ma chambre.
Ça serait ça vraiment une espèce de ligne conductrice, peut-être, de tout ça. Et ils ont influencé tellement de monde, les colocs, avec, tu sais, quand tu regardes ça, pas tant d'albums, tu sais.
Non, c'est effectivement.
Assez peu de chansons, une carrière assez fulgurante pour les raisons qu'on connaît, mais quand même des trucs très marquants, très colorés et empreints de tellement d'influences différentes qu'il y a moyen d'aller piger, même d'un album à l'autre, d'une chanson à l'autre, dans des sonorités
le swing,
complètement
le
différentes.
Ouais. Ouais, c'est capoté.
Tu sais, du reggae, des fois, tu sais, il y a vraiment plein d'éléments là-dedans qu'on peut aller piger, puis qui font en sorte que c'était un band qui était très hétéroclite dans sa composition, puis autant dans le résultat que ça donnait sur la musique. Qu'effectivement, c'est pas pour rien que ça a influencé tant de monde aussi, et à le faire en français, à chanter, à faire de la musique en français aussi, à la suite des années 90, dans justement la décennie 2000. À quel moment, Sandra, t'as quitté Alma?
J'ai quitté à 18 ans pour justement me rendre à Québec.
Ouais.
Pour venir étudier l'ergothérapie à l'Université Laval.
Donc, c'est ça que t'as fait?
C'est ça que j'ai fait.
OK. Ouais. Donc, t'avais quand même tout ce background musical-là, mais tu te magasinais quand même une job sérieuse. Là.
Ben c'est ça. Tu sais, le fait que le petit manque de confiance en moi, peut-être, à ce moment-là, ou à quelque part, qui a été quand même... c'est pas un mauvais choix que j'ai fait.
Non, non.
Je regrette pas du tout. Puis ça fait une belle job étudiante, être ergothérapeute, qui a surtout un étudiant en musique.
Mais, hein? Mais au premier choix, ta première, le premier chemin que tu t'es tapé, finalement, c'était en ergothérapie.
Ouais, science pure, Alma, puis après ça.
Wow! OK! Mais quand même, c'est pas. Comment dire? C'est pas rien. T'es pas venu faire des sciences humaines, là. Tu sais, je veux dire, c'était quand même quelque chose qui demandait une certaine rigueur, puis d'y aller all-in, parce que ça te demande justement des compétences très, très pointues.
Oui. Mais ça reste que j'ai quand même gagné le prix Citron de. Ben, c'est un peu. Ouais. Offert par une des profs, c'était le prix de la plus équilibrée. Parce qu'en ergothérapie, on parle de l'équilibre occupationnel.
OK.
Je sais pas si c'était une bonne affaire qu'elle me donne ça, parce que clairement, j'étais pas celle avec les meilleures notes. Mais en même temps, je m'impliquais, tu sais, j'étais représentante de course, je faisais tout le temps les galas, je faisais de la musique à chaque gala, je faisais des montages vidéo, fait que c'était ça le gag, là, c'est que finalement...
Tu faisais tellement de choses.
Plein d'autres affaires que de l'ergothérapie.
La créativité, il faut qu'elle passe quelque part, hein?
Exactement.
C'est ça qu'on disait tout à l'heure. Elle n'a pas le choix, elle s'est filtrée à travers tout ça. Effectivement. Et donc là, as-tu pratiqué l'ergothérapie professionnellement à la suite de tes études?
Oui, je suis retournée à Alma. J'ai fait un voyage à la fin de ma maîtrise en ergothérapie. Tout le monde se coupait les cheveux courts pour devenir professionnel. Moi, j'ai décidé de me laisser pousser le poil ses jambes puis d'aller en Australie.
OK.
Moi, c'était ça mon... c'est ça, fuck that.
180 degrés.
Oui. M'en va 6 mois en Australie. Puis si je peux me permettre de raconter un petit peu cette aventure-là, c'est là que ça a commencé finalement l'envie d'aller de faire de la musique professionnellement. Okay. Parce que je m'étais dit, bon, OK, il me reste 6 mois pour ne pas être un adulte.
Vivre ma vie, ouais.
C'est ça. Fait que je pars là-bas backpack avec mon violon, toujours, parce que je voyage souvent avec mon violon. Puis une fois là-bas, je vois des gens qui bosquent après comme plusieurs mois de voyage.
Ouais. Le bosking, je fais une parenthèse lexicale ici. C'est un terme anglophone qui désigne les musiciens de rue qui jouent dans la rue avec, vous voyez, là, le coffre de musique ouvert puis qui récoltent de l'argent comme ça. Donc, le bosking, c'est le nom qu'on donne à cette activité, ma foi, semi-légale. Vas-y, continue. Voilà.
C'est pourtant légal là-bas. On n'avait juste pas besoin de permis.
OK.
La ville de Fremantle, qui était dans l'ouest de l'Australie, ne demandait pas de permis pour bosquer ou... Okay. C'est ça, pour bosquer à cet endroit-là. Fait que moi, j'ai vu les gens, la communauté là-bas commencer à faire de la musique sur la rue comme ça. Puis je suis comme, OK, comment ça marche? Puis on dit, tu fais juste t'installer, puis tu joues. Fait que, OK, j'arrive là. Fait que je fais ça. Puis là, je me suis amené des amis aussi pour me dire, en leur disant, hey, applaudissez donc quand je finis une toune, juste pour être sûre que
c'est bon. Donner l'air que
je t'ai super
de quoi.
Faire semblant que c'est bon. Fait que finalement, ça a été... c'est très payant aussi là-bas. Là. Les gens encouragent beaucoup la musique de rue en Australie. Fait que en revenant à Alma en tant qu'ergothérapeute, j'ai trouvé ça rough.
Fait que t'avais gagné plus d'argent en faisant de la musique sur la rue en Australie qu'en pratiquant
tous les jours.
Un domaine dans lequel t'avais une maîtrise.
Ouais.
Et donc des dettes d'études.
Effectivement.
OK, wow! Fait
que c'est à partir de là l'envie de retourner faire de la musique, finalement.
T'as pratiqué combien de temps, mettons, de manière à temps plein, de manière très active en ergothérapie?
En ergothérapie, j'ai fait comme 1 an et demi à Alma, dans une clinique privée. Puis pendant ce temps-là, tu sais, ça se tramait là, l'envie de faire d'autres choses. Puis je savais que je pouvais pas faire ça à temps plein. J'aimais ça, tu sais, l'essence de l'ergothérapie, c'est une super belle profession. C'est très créatif aussi. Il y a moyen de faire aller sa créativité beaucoup, beaucoup. Mais ça reste que c'est ça. Il manquait
ça te travaillait.
Ouais,
est-ce que c'était déchirant de se dire, voyons, j'ai fait tout ça pour arriver à ce métier-là. Ben, je peux toujours bien pas mettre ça de côté puis du revers de la main, t'sais.
Ben oui. Puis tu te chines.
Mais t'as un peu honte de toi, puis tu t'as des regrets, puis c'est un peu...
Ben oui.
Tu sais, j'imagine que, justement, tu t'es rendu jusqu'à la maîtrise parce que tu t'es dit que t'allais à fond là-dedans, tu sais.
Exactement.
Puis tu commences sur le marché du travail, puis tu fais comment, je suis bien poche de pas vouloir faire ça, finalement, tu sais.
Oui, puis tu sais, je me disais, je suis donc bien poche aussi de pas être capable de livrer la marchandise, parce que j'ai commencé une grosse dépression à partir de ce moment-là aussi, en revenant d'Australie, puis en faisant de l'ergothérapie, tu sais, finalement, j'ai quitté à cause d'un burn-out, tu sais. Fait que, tu sais, ça a été tout ça mélangé, le fait d'avoir honte de pas être capable, de pas avoir fait le bon choix, de dire à ton père aussi, hey, père, merci de m'avoir aidé, puis, mais c'est pas ça que je veux faire dans la vie, tu sais. Puis c'est déchirant aussi pour un parent de faire comme, OK, ben, fais ce que tu veux, tu sais, mais c'est ça.
Ouais, tu sens que tu avais certaines attentes autour de toi en lien avec les choix que tu avais faits.
Mm-hmm.
Mais quand même, au final, bon, et c'est sûr que c'est pas évident de traverser ce genre de passage-là non plus mentalement, psychologiquement et tout ça, reste que tu as quand même fait le choix à travers cette tempête-là de t'écouter, puis de revenir quelque part à la musique, ou en tout cas de quitter ce chemin-là, puis d'en tracer un autre parallèlement.
Mm-hmm. Mais tu sais, c'est un choix, mais à un moment donné, ça devient quasiment une obligation. Mm. C'est tellement fort, tu sais, le sentiment que ça crée en dedans ouais. de toi de suivre qu'est-ce que t'as besoin de faire, tu sais.
Exact. Ce qui fait en sorte que t'as requitté Alma?
Ouais, j'ai requitté Alma. Mes boss, ils ont été incroyables. Ils m'ont, ben là, je sais pas si je peux dire ça en nombre, mais ils ont dit que c'était par manque de travail. Fait que j'ai droit, j'ai droit au chômage.
T'as eu ton petit 4% de chômage et tout ça. Fantastique. C'est ça.
Puis j'ai pu préparer mes auditions, pour aller à Saint-Lô. Au cégep de Saint-Laurent en jazz. Fait que ça m'a permis, ce petit buffer-là m'a permis de...
On les remercie, on leur doit tout. et donc, pour, encore une fois, je fais une parenthèse, contextuelle, le cégep de Saint-Laurent à Montréal, qui est un cégep qui est très reconnu pour ses études en musique. Mm-hmm. Nombre de musiciens que vous connaissez, que vous avez vus sur les scènes du Québec, soit se sont rencontrés littéralement au cégep de Saint-Laurent pour faire des groupes, ou encore sont issus de différentes branches du programme en musique du cégep de Saint-Laurent. Alors toi, t'es allé en violon jazz.
Ouais, exact.
Puis oui, faut faire des auditions, c'est pas facile. On parle avec beaucoup de monde ici à Écoute Locale qui ont été refusés à leurs auditions puis qui ont persisté jusqu'à 3 fois. Pour rentrer dans les écoles de musique pour faire leurs auditions. Toi, t'as été capable d'y aller premier coup?
Premier coup, yes. J'ai eu cette chance-là.
Good job!
C'est peut-être le fait d'être violoniste, puis qu'il y a peut-être moins de violonistes qu'il y a de guitaristes. Fait que,
qui sait?
Mais oui,
mais bref, ça a fonctionné?
Mon backup, c'était d'aller en trad à Joliette, si ça fonctionnait pas à Saint-Laurent. Mais je me disais, OK, j'y vais à All-In pour...
Pour le jazz. Ouais. Et donc, c'est quoi? C'est 2 ans, 3 ans?
Ça a été finalement 4 ans avec la pandémie, mais c'était 3 ans la technique. Puis finalement, je finissais dans la pandémie, fait que j'ai eu la chance de pouvoir reporter ma dernière session.
OK, voilà.
Finir comme du monde.
Ben oui, effectivement, parce que bon, tu sais, je veux dire, un concert dans l'ordinateur, c'est pas la même affaire.
Ou un concert, ou aucun concert.
Oui, exact. Non, effectivement, pas de concert de fin d'année.
Pas de concert pantoute.
C'est un peu dommage. Qu'est-ce que tu as appris? Sûrement plein de choses, mais disons, sur toi-même, puis techniquement, puis sur la musique, en allant étudier là-dedans plus officiellement au Cégep Saint-Laurent?
J'ai appris que c'est vrai que j'aime pas se pratiquer.
J'adore ça.
Ça n'a pas changé. Mais il a fallu que je pratique quand même. Mais c'est juste...
Et des examens, là.
Oui, oui. C'est du sérieux. C'est ça, exact. mais j'avais une super prof aussi, Zoé Dumais, qui est une très bonne violoniste, très, très belle humaine aussi. Fait que très compréhensive, à l'écoute de tout le monde.
Ouais.
C'était vraiment super, là. J'ai eu une belle expérience. En termes de... Mais Zoé, c'est une personne aussi qui était très engagée, une militante pour l'environnement, pour la planète. Fait que ça, on dirait... Le cégep de Saint-Laurent, à quelque part, il y a beaucoup ça, tu sais. Puis de retourner aux études, de retourner au cégep à 27 ans aussi, là, c'est comme
pas
un
facile.
Autre univers. Là. J'arrivais, tu sais, mon premier cégep, c'était à Alma.
C'était chez vous, tu sais. C'était du monde avec qui t'étais à l'école secondaire, sûrement. Ça change pas beaucoup d'environnement.
C'est ça.
Là, t'es pas chez vous, t'es à Montréal, t'as presque 10 ans de plus que la majorité des gens qui sont là.
Oui, c'est ça. Puis dans un domaine artistique aussi, fait que ça change vraiment l'expérience.
Ouais.
Quand j'étais en sciences pures, j'allais pas jouer au hockey dehors, mais en musique, oui.
Ouais.
Pendant les pauses.
C'est deux cégeps complètement différents.
Le yaki, comme on dit en allemand, ouais.
Ça, je vais juger ça un petit peu si ça te dérange pas pendant la pause publicitaire.
Oui. Bien sûr.
Ah ouais, jouer au yaki.
Ouais.
J'adore ça. Et donc, c'est ici qu'on s'en va se quitter le temps d'une pause musicale et publicitaire. Parce que malgré tout, c'est une belle histoire qui se dessine de quelqu'un qui s'est tracé un chemin puis qui finalement est revenu au milieu puis qui s'en est retracé un autre puis qui persiste dans ce chemin-là après les études du Cégep Saint-Laurent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse après la pause. Écoute Locale, les entrevues!
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Artaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine.
Chérie J'arrive! Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous l'avez sans doute reconnu, c'est la voix feutrée de Nick Drake avec Pink Moon. Vous êtes à Écoute Locale, les entrevues sur les ondes de Chiz 94.3, une émission au cours de laquelle je passe 60 minutes avec les artistes musicaux de la ville de Québec. Et aujourd'hui, mon invité pour encore une trentaine de minutes, eh bien, c'est Sandra Contour. C'est elle, la DJ aujourd'hui, qui a choisi Nick Drake. Pourquoi Nick Drake d'ailleurs, Sandra?
Nick Drake, je l'ai connu.
Hey, bon Jack!
Non, mais Nick Drake, j'ai commencé à l'écouter, ça fait peut-être 3-4 ans. Puis c'est un artiste qui me touche beaucoup. Peut-être parce que moi aussi, j'ai eu des aventures avec ma santé mentale. Puis lui...
Il chante beaucoup là-dedans,
oui,
j'ai envie de dire.
Oui, c'est ça. Puis même à ça, j'ai lu que... Il a publié l'album de Pink Moon, puis dans les jours qui ont suivi... C'est-tu l'album de Pink Moon ou un autre album? Dans les jours qui ont suivi, il a été interné en psychiatrie. Mais tu ressens pas ça dans sa voix, dans son...
Ouais, c'est dans comme le feeling de l'album.
Ouais, ouais. C'est comme si... tu sais, les paroles, c'est même la musique est quand même dark, mais ça reste que... Il y a comme une lumière à travers ça. Puis,
tout à fait. Et la chanson Pink Moon en est un exemple quand même très éloquent de la lumière, des accords, de la douceur dans la voix. Quelque chose d'apaisant quand même dans cette pièce-là.
Malgré
tout ça, effectivement, c'est un beau contraste. Nous sommes faits de contradictions.
Ah, les contrastes. Ah,
voilà.
Les contrastes.
Sandra, tu parfait ta culture et ta technique musicale en allant étudier en musique. Est-ce que pour toi, ça donnait la légitimité de faire ça, d'envie d'aller étudier? Pourquoi t'as décidé d'y aller? Parce que t'avais quand même déjà des compétences en violon. T'aurais pu décider de te lâcher lousse dans la jungle musicale. Pourquoi t'as décidé de faire un détour pour vraiment aller chercher ton papier?
J'avais commencé, en fait, à me lancer dans la jungle musicale avec des bands locaux du Saguenay. Puis avec des amis, ça s'appelait Les Grands Fauchés, notre band. Puis les gars, ils avaient déjà fait des études en musique. Fait que ça parlait le langage du jazz. Puis moi, je comprenais pas grand-chose.
Et on se souvient qu'il y avait pas de théorie musicale ben dans ton apprentissage.
Non, exactement. Mm. Fait que c'était très à l'oreille, très... c'est ça, je connaissais pas l'armure musicale. En tout cas, c'est des termes Bref, c'est des choses de base, ouais. Mettons, de la musique que j'avais aucune idée. Je savais pas comment composer un accord, pas en tout.
C'est une langue.
C'est vraiment une langue. C'est vraiment un langage. Puis, un moment donné, j'ai voulu comme rallier les deux bouts. Tu sais, j'avais l'oreille. Mon oreille était très aiguisée. Chose que si j'avais stické à une partition toute ma vie, peut-être que j'aurais pas pu développer cette oreille-là. Donc là, j'ai voulu comme rallier les deux bouts.
Ouais, aller chercher ce qui te manquait, c'est-à-dire apprendre la langue musicale, pouvoir parler à tout le monde.
C'est ça. Dire ce que j'avais à dire.
Exact. Exact. Mm. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Souvent, en discutant,
non, effectivement.
Je veux dire, je suis rendue à mon, je sais pas trop, 40e épisode d'écoute locale. Il y a des gens qui ont étudié en musique. Il y a des gens qui ont absolument pas étudié en musique. Parfois, ça se voit pas, ça s'entend pas.
Mm-hmm.
Mais ça donne quand même une assurance supplémentaire de savoir le faire.
Oui.
S'il y a besoin. Puis de pouvoir te servir aussi de ces connaissances-là.
Mm-hmm.
Par la suite. Donc là, tu es à Montréal, mais bon, pandémie style, c'est un peu hardcore, on s'en doute bien. On salue d'ailleurs tous les gens qui ont obtenu un diplôme durant la pandémie, on pense à vous. mais donc, tu as ton diplôme de violon jazz qui t'est allé chercher au Cégep Saint-Laurent.
Ouais.
Et là, à ce moment-là, est-ce que toi, tu composes déjà de la musique à travers ça ou est-ce que tu joues davantage avec d'autres mondes? As-tu déjà commencé dans ta vie, parallèlement à composer des petites chansons?
Composer, non.
Okay.
C'est vraiment arrivé, mais j'écris depuis tout le temps.
Ouais.
Tu sais, mon plafond était rempli de journaux, puis de, tu sais, j'avais comme des tuiles là, de plafond, puis je cachais mes journaux là-dedans.
Pour vrai?
Ouais.
Wow.
Les tuiles de plafond suspendues.
Ouais, ouais, ouais. Pis, on voit que ta chambre était dans le sous-sol.
Ouais, exactement. C'est ça, je fais le mouvement là, d'aller chercher.
Ouais, ouais, ouais. Oui. Bien, comme ici d'ailleurs dans les studios.
Ah ben oui, effectivement. fait que c'est ça. J'avais beaucoup de journaux intimes. J'écrivais beaucoup, mais pas nécessairement de la poésie ni
forme,
de la chanson, ouais. mais tu sais, j'avais l'habitude d'écrire qu'est-ce que je ressentais. J'ai toujours aimé ça. Fait que c'est une fois pendant mes études à Saint-Laurent, dans le fond, on avait comme mettons la moitié du cursus, c'est tout le monde ensemble, puis ensuite ça se sépare entre interprétation puis composition.
Okay.
Puis on avait un cours avec Alexandre Côté que je salue puis que j'aime beaucoup, qui m'appelait Toupette, puis il était comme Toupette, c'était bon ton arrangement, il dit tu devrais aller en compo.
Fait okay.
que là, puis parce qu'il voyait comme une petite twist peut-être plus créative, mettons, dans ce que je... Ben, en tout cas.
Ben oui.
C'est ça.
C'était moins cartésien, un petit peu plus...
Moins jazz.
Ouais. ouais.
Fait que c'est ça. Je m'amusais à faire d'autres choses. Puis c'est ça, il m'a dit, c'est vrai, aller en compo. Fait que là, je suis comme, ah ouais, OK, j'avais pas pensé à ça. Parce que la cour de compo est quand même... c'est une cour de 12, c'est assez restreint.
Oui, puis c'est quand même assez intense de se dire, OK, oui. là, je vais apprendre à composer. Puis c'est un peu un saut dans le vide.
Ben oui, puis tu sais, moi, j'étais comme, j'ai jamais fait ça.
Oui.
justement, c'est là, c'est la chance d'apprendre.
Okay.
Puis ils te prennent vraiment de la base, là. T'as des cours d'écriture de chansons, d'écriture musicale aussi, de composition de grands ensembles, tout ça.
Fait
que, ouais. En un an, j'ai écrit mes premières chansons. Ouais, ouais, ouais. Ouais, fait que ça, c'était en 2000, la dernière année de Saint-Lô, dans le fond, dernière année et demie. Là.
Donc, on est en 2019-2020.
Ouais, c'est ça, exact.
À peu près, où est-ce que là, tu te lances là-dedans?
Ouais.
Avec quand même ces compétences-là, ce réflexe-là d'écrire, mais de le faire avec le violon, de le faire dans un contexte scolaire aussi, quand même assez particulier.
Ouais, ouais. Mais tu vois, je composais pas avec le violon. C'est venu avec la guitare à mon père qui me donnait à ce moment-là. Il m'a comme légué sa guitare en disant, tiens, t'en as plus besoin que moi.
Voyons. On imagine la scène full touchante. Fantastique avec la musique en arrière.
Oui, c'est ça.
Merci, papa. Tu pars avec la guitare.
Puis là, les premières tunes de Sandra Contour sont sorties.
Wow. OK. C'est vraiment nice. Là, on a fait une petite parenthèse tantôt pour les gens qui étaient pas là. Où est-ce que tu as déménagé beaucoup? Hein? Ben déjà, il y a Québec, Alma, Québec.
Mm-hmm.
Après ça, un petit détour à Montréal.
Mm-hmm.
T'aurais pu décider de rester à Montréal?
Oui. Je suis partie quand même de reculons, je dirais. Mais c'est une histoire d'amour. Puis on est partis ensemble à Baie-Saint-Paul. Fait qu'un autre détour.
Mais oui.
Pour un an. Mais...
De chaque bord de Québec.
Ouais, c'est ça. J'en reviens tout le temps à Québec. C'est comme mon point central. Ouais, c'est ça.
Fait que t'allais faire un petit détour à Baie-Saint-Paul par la suite.
Ouais.
Quand même un très, très beau lieu.
Ben,
visuellement, mais aussi dans la communauté qui est là-bas.
Humainement, ouais. Incroyable. Ouais,
donc et des gens qui quand même te connaissaient bien lorsque tu es retourné cet hiver faire le cabaret festif de la Relève. Oui. C'est comme un petit retour dans la communauté de Baie-Saint-Paul qui quand même t'a démontré beaucoup d'amour. Là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de love de la part des gens de Baie-Saint-Paul lorsque t'es passé faire la compétition à deux reprises d'ailleurs. Mm-hmm. Prix du public, donc c'est ça qui t'a mené à la finale.
Ouais.
C'est quand même assez significatif, ça.
Vraiment. Ah non, j'étais très touchée, puis une belle gang là-bas encore. Là, qui d'ailleurs ont vécu ça rough là, dernièrement, je sais pas si t'es au courant.
Oui, je pense qu'il faut avoir vécu sous une roche, pas avoir vu ça passer.
Effectivement.
Effectivement, mais donc oui, bon, on les salue, on leur envoie mm-hmm. beaucoup de love aussi. Ouais. On sait que le plus gros semble être derrière eux, mais qu'on leur souhaite beaucoup de soleil aussi pour faire sécher tout ce terrain.
Oui, puis pour le festif aussi, qui était très mouillé l'année passée.
C'est ça.
C'était pas dans leurs habitudes. C'est ça, pourtant, d'avoir de la pluie, mais on dirait.
C'est ça le mot, c'est ça. En tout cas, mais bref, ça t'a permis de rencontrer plein de monde aussi, puis de refaire un peu un réseau quelque part aussi, de faire des amis de la communauté et tout ça. Mm-hmm. Parce que le sentiment d'appartenance, oui, il est important là où on est, même si on se déracine une fois de temps en temps. Mm-hmm. Mais comme tu mentionnais tout à l'heure, c'est surtout pour jouer de la musique avec des gens.
Mm-hmm, c'est ça. Exactement.
C'est ce que tu cherches, finalement.
C'est ce que je cherche. Puis à Baie-Saint-Paul, il y a une grosse communauté autour de la musique, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de musiciens. Puis les gens que je rencontrais, tu sais, qui étaient auparavant musiciens, me disaient bien souvent, « Ah ouais, depuis que je suis dans Charlevoix, j'ai arrêté de jouer de la musique. »
C'est tellement dommage.
J'ai peut-être pas rencontré les bonnes personnes, nécessairement, parce que j'ai pas été là longtemps, mais beaucoup de monde sont plus dans la communauté. Ils organisent, c'est ça. Il y a beaucoup d'organisateurs là-bas, puis on le voit là avec le festif, ils sont super bons.
Ils s'organisent pour faire jouer de la musique aux autres.
Oui.
C'est ça, exact. Mais quand même, ce qui est assez heureux, c'est qu'à travers toutes ces rencontres-là et ton retour à Québec, donc en septembre dernier, mm-hmm. et ton très, très récent déménagement à Limoilou, tu as rencontré quand même des gens qui te font jouer de la musique. Tu joues notamment avec Margaret Tracteur au violon. Donc, ce qui est super le fun aussi, qui permet d'aller dans le côté un peu plus trad, mais en même temps un peu jazz.
C'est ça.
Tu joues un petit peu avec les frontières. Ouais. Et t'as rencontré celui avec qui aussi tu joues en duo maintenant.
Mm-hmm. Oui.
Pierre-Antoine
Tanguay.
Qu'on salue.
Oui.
Qui est maintenant dans la région de Québec, donc, je pense.
C'est ça.
Et qui, avec qui tu joues en duo, donc, mm-hmm. c'est comme ça. Est-ce que t'as dans la tête l'idée de te faire une formule full band, Sandra Contour?
Là, on est en full band duo, là, qu'on appelle, mais le full band à plus que deux, j'aimerais ça pour le lancement d'album, parce qu'il y aura album, mm-hmm. ça s'en vient. J'ai les pré-mix pis tout, là.
Oh, wow!
Petit scoop. Mais
moi, une console, là, peut-être en tout cas, c'est la fin de l'émission. Mais donc, ouais, ça mijote.
Ouais.
OK.
Ouais.
On a le temps d'aller écouter une autre chanson,
oui.
ma chère Sandra. Donc, toujours, je rappelle, des chansons choisies par mes invités, histoire de circonscrire un peu leur univers musical. Qu'est-ce qu'on va entendre?
On va entendre une chanson de Brigitte Fontaine qui
quelle voix, Brigitte Fontaine?
Je pense pas que ça soit la chanson qui la mette la plus en évidence.
Non,
en
mais tu sais, une interprétation, c'est plus ça que je veux dire.
OK, c'est ça. Ouais. Oui, effectivement.
C'est un timbre de voix.
C'est un timbre, puis un vécu, tu sais. Ouais. Moi, c'est quelqu'un qui me transporte là, vraiment dans son univers, puis quelqu'un qui est très décalé aussi. J'aime les contrastes.
Ouais.
Fait que Brigitte Fontaine en est... on y va avec « C'est normal ». ».«
C'est normal » de Brigitte Fontaine.
La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si?
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Dis donc.
La 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 la.
Tu sens pas le brûler?
Ah ouais? C'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion...
La quoi?
L'agitation moléculaire.
Ah ouais.
Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Ouais, ouais.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Tu comprends?
Ouais, ouais.
La 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 la
mais,
la
alors...
la.
En train de brûler, c'est bien ça?
Ben oui, écoute. Les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends?
Oui.
C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs.
Ouais.
Alors le feu s'empare très facilement des matières.
Ouais.
Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie.
Ah, un
c'est
incendie.
Normal.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. La 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 la.
Et voilà, mon Dieu, c'est exotique tout ça. Hein, les petites maracas, les petits beats. On est ailleurs, j'aime ça. Quand je disais que mes invités nous donnaient toujours des playlists un peu disparates pour nous faire découvrir des voix, des univers, mm-hmm. C'est un peu ça que j'aime dans cet exercice-là, de faire choisir les chansons puis de les piger un petit peu au feeling aussi à travers le cours de l'émission. Mm-hmm. On est avec Sandra Contour, il reste seulement 10 minutes, peux-tu croire, Sandra?
Ah, d'abord, oui. Moi qui avais peur de savoir pas quoi dire.
Ben non, c'est sûr.
Avec toi,
moi, j'avais pas vraiment peur, je t'avouerai. Mais c'est un beau parcours quand même qu'on a fait avec toi, tout ça pour arriver à aujourd'hui. Mmh. Et aux chansons que moi je connais très peu, je pense que les gens ont une petite fenêtre sur tes chansons, si t'en as déjà vu en spectacle à quelques reprises, t'en as fait un peu, mais en même temps de pas encore rendu à la tournée mondiale, hein, alors
moi
ça s'en vient bientôt, éminemment en duo. Mais moi ce que je connais de toi, c'est donc énormément les chansons que t'as jouées dans le cadre de ta vitrine là, au festival, au cabaret festif de la Relève. Ces chansons-là, c'est beaucoup là que j'ai découvert musicalement parce que pour ma part, je connaissais ton nom, je savais que tu jouais du violon, je t'avais vu à quelques reprises, mais vraiment avoir accès, prendre le temps de m'asseoir et d'écouter ce qu'il t'écrivait, c'était une première fois. Ce qui m'amène à te poser la question suivante. Tu disais tout à l'heure que t'avais l'espèce de chanson dont t'as décrit le processus d'écriture. J'ai pas de visite avec lesquelles tu ouvres tes spectacles. Et tu nous as dit aussi, tu nous as glissé entre deux phrases tout à l'heure que ta musique était davantage plus folk, un petit peu plus minimaliste, donc, et que tu la joues en duo. Acoustique pour le moment, avec cette espèce de petite parenthèse un peu plus électronique. Quand tu crées une chanson, généralement, ça part d'où? Ça part de comment t'as-tu... Je sais qu'il n'y a pas de recette magique puis qu'il n'y a pas une chanson qui s'écrit de la même manière, mais si tu t'avais à identifier un moteur de tes chansons, ça serait quoi? Y a-t-il un lieu commun ou un fil rouge qui lie un peu tes compositions?
Un fil rouge, mais c'est plate, mais c'est un peu la détresse psychologique, puis ce que je trouve...
C'est pas plate.
C'est pas plate. C'est pas plate. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'essaie tout le temps de... on dit que faut être triste pour écrire des bonnes chansons. Là. Il y a beaucoup de monde qui dit ça.
L'artiste toujours malheureux, là, qui est comme... Ouais, c'est un mythe, en fait, rendu là.
C'est ça. Mais dans mon cas, en fait, je pourrais dire que c'est 50% vrai.
OK.
Parce que... faut que j'aille bien aussi pour en écrire, tu sais.
Ouais.
Puis parce que il y a quand même de la lumière dans mes chansons, je sais pas si t'as remarqué ça un peu, mais tu sais il y a quand même, ça prend un genre de recul. Fait que souvent je vais comme écrire une fois que je vais mieux, puis je vais avoir un regard sur qu'est-ce qui s'est passé, puis il va avoir comme un petit twist plus humoristique, puis justement le jeu de contraste vient.
Ouais. De prendre une situation qui était négative pour toi dans ton ressenti.
Ouais.
Mais de la dépeindre de manière plus légère.
Oui, légère ou tu sais de, ouais c'est ça. Pas nécessairement que ça soit comme cliché puis que ça devienne comme, tu sais ça reste dans le sensible, ça reste dans le vrai. Tu sais je veux pas non plus dire que, tu sais je veux pas minimiser la tristesse qu'on ressent puis juste virer ça. Ouais c'est ça, juste virer ça en positif, c'est pas ça. Mais c'est de le voir comme un chemin finalement, de le voir comme c'est ça, c'est des vallons.
Exact, c'est des vallons. Mm. La musique, c'est des vallons. Mais c'est un peu pas... ça peut avoir l'air cliché, effectivement, parce qu'on a parlé tout à l'heure, mais je trouve que tout d'un coup, le fait que tu me parlais des colocs tout à l'heure, ça fait plein de sens, parce que la musique des colocs était une musique qui était quand même fondée sur des sentiments quand même assez deep, négatifs, de dépression, de tout le kit, mais qui était quand même fondamentalement festive. Donc, qui jouait énormément avec ces contrastes-là. Exact. Des arrangements qui étaient très joyeux, très festifs, mais quand tu te mettais à juste lire les paroles, ça avait... aucune, ça savait rien de festif finalement. Donc, on jouait beaucoup avec tout ça. Donc, je me dis, ah, il y a quand même cet écho-là qui persiste. Il y a plein d'autres artistes, évidemment, qui font ça. C'est pas les seuls.
Comme
mais...
ce qu'on vient d'écouter, c'est normal de Brigitte Fontaine. C'est exactement ça. C'est comme de la petite musique très rumba, très.
Oui, on danse autour du feu.
Mais
ça y va.
C'est comme, c'est normal. On est en train de mourir en ce moment. Exactement. On n'a pas écouté la fin, mais la fin se finit très raide. Puis ils ont ben, c'est normal. On est en train. Il y a un feu, il y a un incendie dans l'endroit. On est en train de mourir.
Voilà. C'est ça. Donc, on aime aussi l'ironie là-dedans.
Beaucoup, beaucoup.
La petite figure de style ici. Ouais. Tu travailles en ce moment donc sur un album. T'en as glissé quelques mots. Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Je peux dire que...
T'as le droit de parler.
Ben oui. Je peux dire qu'on est rendu au moment où ce que là c'est comme le petit peaufinage de genre rajouter des voix parce qu'on a fait 3 jours de studio plus intensif dernièrement. C'est Gabriel Desjardins qui est le réalisateur avec moi que on peut dire qu'on co-réalise parce que des fois je dis mes
la création générale de tout ça.
Ouais, exactement. Fait que puis il y a aussi Martin Lemay qui est beaucoup là, fait qu'on est comme un petit trio là. De travail qui est vraiment le fun. C'est une belle équipe. Fait que je suis rendue à essayer d'enregistrer d'autres voix parce que, en tout cas, du petit peaufinage de fin avant d'envoyer ça au mix. Puis,
on appelle ça des overdubs.
Des overdubs.
Par-dessus lesquels, donc, on rajoute. Donc, on est dans les dernières étapes de l'album. Donc, on l'attend dans les prochains mois, on se dit, quelque
part. Dans les prochains mois. C'est bien. Je veux pas non plus créer trop d'attentes envers. C'est ça, parce que je m'étais dit, je vais lancer ça au mois de mars, puis même à ça, je pensais pouvoir lancer ça l'année passée même. Puis
c'est correct.
Garance Chartier, qu'on connaît bien à l'Ampli, mais qui est plus à l'Ampli de Québec.
Qui était à l'Ampli de Québec comme conseillère artistique.
Oui, thérapeute musicale qu'on aime.
Oh, yes.
Thérapeute artistique. Puis me dit un moment donné, un plan de match, c'est la chose qui change le plus. Fait que, tu sais, j'essaie de pas me... J'essaie de me mettre des objectifs, un échéancier,
mais... Sinon, il sortira pas.
Ouais, c'est ça. Exactement.
Mais de se dire, OK, ça peut changer.
Ça peut changer.
Et on se donne quand même le temps que ça prendra,
mais oui,
finalement.
C'est mon bébé. Mais oui. C'est comme mon premier. J'ai envie que ça soit bon, que ça se rende dans les bonnes oreilles.
Tout à fait. Et sinon, on te souhaite de jouer beaucoup cet été. On souhaite de pouvoir avoir l'occasion de jouer, que ce soit sur une scène ou dans un salon, dans une cour arrière, juste jouer avec du monde, sortir ton violon, ta guitare le plus souvent possible, parce que pour que ça reste un jeu, n'est-ce pas? Un jeu qui maintenant devient ton métier, mais qui reste un jeu quand même.
Qui reste un jeu, c'est ça, c'est important de se le rappeler.
Ouais. Est-ce que tu as déjà donné des cours d'ailleurs?
Un petit peu à Baie-Saint-Paul justement j'avais commencé mais c'est pas ça que je priorise.
OK. Je me disais juste comme mais crime tu sais de l'enseigner aussi cette idée là de la musique c'est un jeu puis même s'il faut pratiquer il faut que ça reste un jeu parce qu'on joue de la musique.
Peut-être un jour. Je pense que j'aime assez les enfants pour
pour les endurer une heure par semaine.
Ça.
Yes. Ben, on te surveille, Sandra, dans ce qui s'en vient pour toi, à Québec ou ailleurs. Qui sait où le boomerang, Sandra Contour, se propulsera dans les prochaines années?
Tu fais un genre de catapulte avec un drap contour. C'est bien élastique.
Exact. C'est en plein ça. Tu vois, c'est ton totem. C'est
voilà.
Ça.
Sandra Contour.
On a le temps pour une dernière chanson.
Oui.
Thierry, de ta playlist, donc, histoire de finir ça en musique, cet épisode d'écoute locale, les entrevues.
Yes.
Dis-moi, Sandra, DJ Contour, qu'est-ce qu'on va
entendre?
Contour.
On y va avec Cybill Bayeux.
Que je ne connais pas, est-ce que tu peux m'en parler un petit
peu? C'est une artiste, c'était une maman des années 70-80, je crois, qui a composé ça des années 70. Puis, en fait, c'est son garçon qui a trouvé ces tracks-là, puis qui a décidé de les masteriser, d'en faire un album, finalement, plusieurs années plus tard, puis c'est devenu iconique.
Wow.
Là. Donc, Cybill Bayeux, c'est une artiste qui me touche beaucoup.
une artiste malgré elle, on dirait.
Ouais, exactement. Ouais, il y en a quelques-uns comme ça.
Ouais. Ben, avant de lancer en musique, je te remercie énormément, Sandra, d'avoir été là. Et rendez-vous sur le shiz.ca si vous venez de vous joindre à nous et que vous avez tout manqué la belle entrevue de 60 minutes qu'on vient de faire. L'entièreté du podcast sera disponible sur la section émissions et dans la page d'écoute locale. Les entrevues à réécouter autant de fois que vous le voulez. On se voit dans 2 semaines pour un autre épisode avec un invité que j'inviterai sans doute la veille. Et on s'en va avec Sybille Veilleuse dans l'entrevue. Merci, Sandra.
Merci, j'ai hâte de t'entendre au violon.
Suivre, oui. Tonight, when I came home from work, heard tonight, when I came home from work, there he, unforeseen, sat in my kitchen, buttering himself for bread, and the cat was on his knee and smiled at me. Tonight, when I came home from work, tonight, when I came home from work, there he, unforeseen, passed the guitar and said, I battered my car right now, won't you please give me your tune? We had change of the moon, we had change of the moon, tonight, when I came home from work. Tonight, when I came home from work. Tonight, when I came home from work. There he, unforeseen, changed in an easy chair and said, what's that sorrow you bear? And I could tell him he understood. He gently took my arm, he listened to my tears till dawn. I dedicate this song to you.